La fois passée, nous avions vu le dernier discours important de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 24-25, entre l'approche dramatique de Jérusalem, au chapitre 19-23, et le récit de la Passion, Résurrection, dernière étape qui commence au chapitre 26. Dans ce discours eschatologique, nous avons entendu qu'il était question de bouleversement et de surprise, qui achemine vers le jour du Fils de l'homme, et positivement que Jésus l'invitait à la vigilance active, et notamment avec certaines mises en scène, paraboles qui lui sont propres. La venue du voleur, là, on trouve aussi dans d'autres évangiles, mais les deux serviteurs, celui qui dit d'abord non et puis fait oui, les vierges sages, les vierges folles, la parabole des talents, tout cela est propre à Matthieu. Et enfin la scène, la grande scène finale que nous connaissons bien, du jugement dernier par ce fils de l'homme qui est présenté comme un roi berger et qui, selon le critère de l'attention concrète prêtée au prochain, eh bien met les boucs à sa gauche et brebis à sa droite. Et le discours avait été généré par une double question des disciples à la vue de l'annonce de la ruine du temple. Dis-nous quand ceci sera et quel sera le signe. Jésus a répondu un peu aux deux questions. Le quand, on annonce que lorsqu'il sera imminent, on ne pourra pas s'y tromper, mais il ne s'agit pas de vouloir le prévoir. Et je vous avais dit que cette question sur le quand du jour du Fils de l'homme, Jésus finalement l'a renvoyé au camp de notre vie concrète. Quand avons-nous vu avoir faim et soif, n'avons-nous pas secouru, etc. Il s'agit du camp de notre temps présent qui nous prépare au camp du moment où le Fils de l'homme reviendra. Dans la douzième étape, on a donc trois grandes étapes, de l'onction à Béthanie, la Pâque, la scène amenée jusqu'à l'arrestation, puis de l'interrogatoire de Jésus devant le grand prêtre jusqu'à sa crucifixion, et enfin de la mort sur la croix jusqu'à l'envoi des disciples via la mise au tombeau, la résurrection, les apparitions. Donc de l'onction à l'arrestation, de l'interrogatoire devant le grand prêtre jusqu'à la crucifixion, de la mort de Jésus à l'envoi des disciples, ainsi que Radur Marquez divise cette section. Alors je prends avec vous la page 26 que je vous ai donnée.
Oh, merci.
Dans le paquet d'aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le temps de parcourir l'ensemble, mais donne quelques éléments plus caractéristiques de ce cycle pascal dans l'évangile selon saint Matthieu. D'abord, d'un point de vue de la comparaison synoptique avec Marc et Luc, on voit qu'il y a quand même pas mal de passages qui sont propres à Matthieu. Les références les plus importantes, je les ai mises en chiffres gras, notamment le passage du chapitre 26, vers sa fin. Alors Jésus lui dit « Détourne ton glaive, tous ceux qui prennent le glaive se perdront par un glaive. » Penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père, qui enverra 12 légions d'anges? Comment s'accompliront alors les Écritures, sous-entendu qui disent qu'il faut que ceci arrive ainsi? Donc l'insistance sur la manière dont Jésus affronte ainsi, sans répondre par le glaive, affronte l'opposition qui lui est faite, et dans la perspective de l'accomplissement des Écritures, qui est encore relié par le verset suivant. Donc ça, c'est un passage propre à Matthieu. Alors, Matthieu déploie davantage l'histoire autour de Judas, au chapitre 27, les 10 premiers versets, avec des allusions, citations à divers prophètes, Daniel, Zacharie, Jérémie, l'intervention de la femme de Pilate, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste-là, c'est Matthieu, qui a toujours eu à cœur le thème de la justice. Au chapitre 87, l'épisode où Pilate s'en lave les mains, je suis innocent du sang de ce juste, et la réponse du peuple, son sang soit sur nous, sur nos enfants, toujours cette insistance sur un des thèmes récurrents dans la passion selon Matthieu, celui du sang. Puis au chapitre 27, les versets 51-53, la résonance en quelque sorte cosmique de la mort de Jésus, l'ouverture de tombeau, déjà une allusion anticipative de morts qui sortent des monuments après son réveil. Il veut nous faire comprendre la résonance, comme vous disiez, cosmique et pour toute l'humanité, sa mort et puis sa résurrection. La position d'une garde au tombeau, ça aussi c'est propre à Matthieu, d'une garde soudoyée d'avance. Au chapitre 28, l'insistance sur l'ébranlement de nouveau, mais cette fois-ci suite à la résurrection, lors du Seigneur, les gardes apposés au tombeau tremblant, et alors toute la finale de l'évangile matthéen, les derniers versets, dans la manière dont ils sont exprimés, en tout cas lui sont propres, les versets 9 à 20. C'est-à-dire la rencontre de Jésus avec les femmes, qui viennent auprès de lui, se saisissent de lui, se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit « Ne craignez pas ». Je vous avais dit, il y a des liens avec la venue de Jésus sur les eaux au chapitre 14, hein, où après l'apaisement des eaux, tous dans la barque se prosternèrent devant lui, et Jésus les avait invités à ne pas craindre. « Partez annoncer à mes frères qu'ils s'éloignent vers la Galilée, là ils me verront ». Comme en Jean chapitre 20, c'est à ce moment-là que Jésus parle de ses frères, mes frères. Ce qui est quand même un signe de sa miséricorde, puisque ses frères en question, ils l'ont trahi quand même dans les jours qui ont précédé. Comme elle s'en allait, voici quelques-uns des détachements de garde envers la ville, annoncèrent aux grands prêtres, etc. Et on voit que justement, il y a une nouvelle tentative de corruption pour soudoyer les gardes qui prennent l'argent et font comme ils ont été enseignés, et cette manière de pouvoir obturer l'événement de la résurrection par une fake news, comme on dit aujourd'hui, une nouvelle trompeuse, et bien cette parole s'est étendue chez les Juifs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une incise de Matthieu, je dirais, destinée à ses lecteurs d'origine juive, invités à dépasser cette manière erronée de comprendre les choses pour entrer dans la vérité de la résurrection. Et puis alors la finale, les quatre derniers versets. « Or les onze disciples allèrent vers la Galilée, vers la montagne où Jésus leur avait prescrit d'aller. Le voyant, ils se prosternèrent de nouveau, mais ils doutèrent. » C'est la seule autre occurrence dans tous les évangiles de ce verbe spécifique qu'on avait vu justement au chapitre 14. « On ne peut deux fois, pourquoi as-tu douté ?» Ici, nous sommes après la résurrection, mais ils ont encore des doutes. Jésus ne se laisse pas arrêter par cela. Venant auprès d'eux, il leur parla, « Toute autorité me fut donnée au ciel et sur la terre. Allant donc, faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé. » Donc, tout ce que je vous ai commandé, ils sont invités donc, à le faire d'abord eux-mêmes, mais ils doivent aussi apprendre aux autres à le faire, leur enseigner, leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis, et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Des versets de la fin d'Évangile très riches, d'abord de nouveau par le lien avec l'épisode du chapitre 14, mais vous voyez l'insistance sur une complétude, une totalité. Au verset 18, « Toute autorité me fut donnée, fait disciple toutes les nations, leur enseignant tout ce que je vous ai commandé, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Forte intensité dans ces versets. Et bien sûr, voici, c'est le dernier « et voici », Jésus engage vraiment sa parole, et voici moi, je suis, ego eimi, c'est quand même la formule, moi je suis, c'est quand même la formule de la révélation au livre de l'Exode, hein, moi je suis, ego eimi, celui qui suite. Moi, je suis avec vous. Donc, on a comme décliné le terme de l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, qui est intervenu, et c'était la seule mention du nom de l'Emmanuel au début de l'Évangile, à travers la prophétie d'Isaïe, dans l'annonce faite à Joseph. Il sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et bien voilà qu'au dernier verset de l'Évangile, ça fait l'objet d'une promesse. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Embrasser la totalité de l'histoire. Vous vous souvenez que dans les occurrences de l'évangile, du mot Évangile, il y en avait quatre spécialement dans l'Évangile de Matthieu, et que les deux dernières sont dans la bouche de Jésus, et qui annonce que l'Évangile va être proclamé à toutes les nations et dans tout l'univers. Voilà. Et cette totalité dans l'espace s'assortit d'une promesse de réalisation d'être avec eux dans la totalité du temps, jusqu'à la consommation du siècle. Voilà pour quelques mots sur ces versets, quand même, de la fin de l'Évangile, qui sont riches, qui ressaisissent quand même ce thème essentiel de l'Emmanuel, Dieu avec nous, dans le verset final. Alors, je reviens à la page 26. Quelques insistances, donc caractéristiques de Matthieu dans ces chapitres. D'abord, la figure de Judas, qui est assez nuancée chez lui, parce que c'est quand même chez Matthieu qu'on entend Judas dire « J'ai péché en versant un sang innocent ». Il reconnaît quand même, il est lucide, et il reconnaît qu'il a péché. Alors évidemment, sa limite, c'est de n'avoir pas espéré suffisamment, et d'avoir désespéré. Mais le récit montre comment c'est tout autant ceux qui, je dirais, le renvoient à ses scrupules de manière brutale, l'enferme dans sa solitude, c'est autant eux qui sont coupables de sa mort. Mais donc la figure de Judas est nuancée chez Matthieu. L'écriture, qui est très dans l'usage, se fait encore plus intensif dans ces derniers chapitres, comme il était intensif dès le début de l'Évangile, avec une insistance propre sur des extraits du prophète Zacharie. L'insistance sur le sang innocent versé de manière coupable, qui avait été annoncé par vous êtes pire que vos pères, serait coupable de tout le sang versé, depuis le sang d'Abel le Juste jusqu'au sang de Zacharie, vous vous souvenez de cela. Mais ici, il s'agit d'un sang qui est dit en vue d'un pardon de péché. Chez Matthieu, je dirais, le pardon des péchés est lié au don miséricordieux, rédempteur du Christ. L'influence négative des autorités sur le peuple, dès les premiers chapitres, on avait vu l'importance de la présence du peuple, le peuple qui se tenait là pendant l'apparition à Zacharie, dans le temple, etc. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et voilà qu'à la fin de l'Évangile, bien de nouveau, il y a une insistance sur le peuple qui se laisse emporter négativement par les autorités. Insistance sur l'être disciple, confronté justement au drame de la passion, et comment ils font défection, mais dans sa résurrection, comme on vient de le lire, Jésus ne se laisse pas arrêter par les doutes qui les assaillent encore à ce moment-là. Le voyant, ils doutèrent, et Jésus, en dépit de leurs doutes, leur dit « Faites disciples toutes les nations », comme forme de voir cette confiance de Jésus en la possibilité qu'ils vont avoir de devenir de vrais disciples, même si à ce moment-là, ils sont encore sous le choc, ils doutent encore. Ce sont aussi des chapitres où sont recueillis beaucoup de titres d'appellation du Christ, direct ou via l'Écriture. Si on les collation, on voit qu'il est appelé le Maître, le Seigneur, le Rabbi, le Berger, Jésus le Nazaréen, Jésus le Galiléen, que ces nominations de roi des Juifs sont objet de procès de raillerie, s'il est le Christ, etc., s'il est le roi des Juifs ou d'Israël, s'il est le Fils de Dieu. La réaction du centurion, vraiment, cet homme était Fils de Dieu, lui le reconnaît. Donc l'importance des titres à lesquels Jésus est reconnu. Et enfin, l'accomplissement du sens du nom de Jésus. Il avait été dit, lui sauvera son peuple de ses péchés, c'est le sens du Jésus, Yeshua, et comme je l'ai dit, de l'Emmanuel qui est traduit Dieu avec nous, et qui est présent en filigrane, mais bien clairement dans le dernier verset. Voilà pour cette finale de l'évangile de Matthieu. J'en viens maintenant, si vous voulez, à une leçon de synthèse. On aurait pu prendre plusieurs thèmes, j'aurais pu développer l'insistance de Matthieu sur la miséricorde, par exemple. Comme chez lui, on trouve deux fois la citation, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, il y a plein d'autres indices, mais je m'attache à l'insistance qu'il porte sur la figure du Père. Je vais m'appuyer sur mes feuilles, mais en retournant au rythme qu'impose le temps dont nous disposons, et en pointant l'essentiel. Dans l'Ancien Testament, d'abord, les appellations de Dieu comme Père sont quand même relativement rares et tardives. Le judaïsme a résisté longtemps au langage des autres religions où les dieux et les déesses s'unissent et deviennent Père et Mère. Donc on se défiait de l'image de Dieu comme étant susceptible, comme les dieux païens, de génération charnelle. Et donc on évitait. Pourtant, il y a quelques passages, notamment Isaïe, « Pourtant, tu es notre Père, si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, eh bien toi, Adonai, tu es notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. » Ça, c'est quand même une affirmation forte d'Isaïe. Voilà. Alors, plus loin, je vous cite un passage qui explique comment la Bible présente le Dieu d'Israël comme Père, mais avec des réserves. En quel sens le terme de Père est appliqué au niveau humain, fréquent dans l'Ancien Testament. Mais ce que je veux souligner, c'est que appliqué à Dieu, en tel, là, c'est plutôt rare. Si la désignation franche de Dieu, ceci à la page 2, comme Père est rare dans l'Ancien Testament, pourtant la conviction, la perception, le sentiment, l'intelligence du cœur de sa paternité n'est pas absent du judaïsme tardif, en tout cas. Aux approches de l'ère chrétienne, je vous cite quelques lignes d'une notice du VTB, le vocabulaire de théologie biblique, toujours précieux à consulter. Aux approches de l'ère chrétienne, Israël garde pleine conscience que Dieu est père de son peuple et de chacun de ses fidèles. L'appellation de père est très rare. Dans les Apocalypses et les textes de Qumran, qui redoutent peut-être l'usage qu'en fait l'hellénisme. Mais elle est fréquente, non pas dans les écrits bibliques de l'Ancien Testament, mais dans les écrits rabbiniques, où l'on retrouve même, telle quelle, la formule « Notre Père qui est dans les cieux », dans les écrits rabbiniques. Maintenant, le problème, c'est de dater les écrits rabbiniques, qui sont parfois un peu postérieurs au christianisme. Donc, l'influence vient peut-être du christianisme vers les écrivains. L'évangile de Matthieu, s'adressant d'abord à des judéo-chrétiens, l'évangéliste, quand il déploie son propos sur Dieu Père, tel que nous l'évoque singulièrement Jésus, l'envisage dans une nouveauté, à la fois il y a quelque chose de radicalement neuf dans l'usage que Jésus fait du mot Père pour désigner son Père et notre Père, mais en même temps qui ne porte pas préjudice aux acquis de la première alliance. C'est-à-dire ce pressentiment de la paternité de Dieu est assumé aussi. Jésus, sur ce point central de la révélation aussi, est bienvenu non pas abolir, mais accomplir. Donc ce qui était en germe, très discret, voilà que Jésus, par sa venue même, comme il est le seul à pouvoir nous révéler le Père, il y a le fait. Une relecture attentive du premier évangile peut amener à la question suivante. Comment Jésus en Matthieu nous parle-t-il du Père ou parle-t-il au Père? Lui parle-t-il? D'abord, un petit tableau révélateur, chiffré, on fait une petite enquête peu précise sur les occurrences du mot Père pour désigner Dieu chez Matthieu. 1. Tableau chiffré résume les fruits de l'enquête. D'abord, par rapport aux autres évangiles, c'est sûr qu'on est spontanément conscient que le mot Père pour désigner Dieu est très présent chez Jean. Alors c'est un accent, Jésus, fils du Père, chez Jean, c'est vraiment au cœur de son évangile. Mais, dans les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc voyez que Matthieu est largement au-dessus des autres dans la fréquence de l'usage du nom Dieu pour Père. Alors tantôt c'est dit par Jésus que Dieu sera appelé Père, ce n'est pas dit dans les évangiles par d'autres personnages ou par le narrateur, ce n'est pas dit dans les synoptiques. Mais chez saint Jean, on a quelques occurrences en ce sens. Ce qui veut dire que chez les synoptiques et chez Matthieu, comme les deux autres, c'est toujours Jésus qui parle de Dieu Père. Ce n'est même pas l'évangéliste qui s'engage, non, il nous fait entendre, parce que Jésus est le seul à pouvoir adéquatement nous parler du Père, et nous parler à son Père. Donc, c'est toujours dit par Jésus, 45 fois. Alors, il nous parle de Dieu, votre Père, ou ton Père, leur Père, lorsqu'il dit par exemple, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, troisième personne. Et alors, il y a aussi l'invitation qui nous est faite de l'appeler, comme il appelle, dites, notre Père, dans l'enseignement de notre Père, bien sûr. Il y a la manière dont il s'adresse lui-même à son Père, au vocatif. Et ça, c'est une fois chez Luc. Dieu comme notre Père, d'abord, donc, et puis Dieu comme Père de Jésus, là où il lui parle, où il nous parle de lui en disant mon Père, son Père, car le Fils de l'homme, sans qu'il parle de lui, va venir dans la gloire de son Père, donc c'est lui qui parle de son Père, le Père, mon Père au vocatif, mon Père s'il est possible, que vous s'éloignez de moi, etc. Père au vocatif. Alors pour des pères terrestres, donc c'est pour Dieu qu'il y a 45 occurrences du mot Père, et pour les pères terrestres, vous voyez que Luc y insiste volontiers, 37 fois, tandis que Matthieu, moins. Qu'en ressort-il ? Dans les évangiles, quand le mot Père est utilisé, c'est dans plus de deux tiers des cas pour parler de Dieu, à la différence de l'évocation des pères terrestres. Il est mentionné massivement chez Jean, mais Matthieu émerge parmi les trois autres. Qui parle du Père ? Chez Jean, c'est essentiellement Jésus. Essentiellement, mais pas exclusivement. Chez les synoptiques, c'est exclusivement Jésus. Seul Jésus parle du Père. Comme si ces évangélistes, avec une humble retenue, reconnaissaient que le Fils est le seul habilité à évoquer le Père en vérité, pour nous le révéler. C'est quand même lui qui dit « Nul ne reconnaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décidera de le révéler. » Donc c'est lui qui nous parle du Père pour nous le révéler. Comment ça fait la désignation du Père ? Je saute le paragraphe du sursus sur saint Jean. Je viens à Matthieu, la page 2, 3. Chez Matthieu, Jésus désigne volontiers Dieu comme notre Père. Ainsi, en parlant de celui-ci à ses interlocuteurs, Jésus dit 14 fois votre Père et 5 fois ton Père, plus que chez Matthieu. Par ailleurs, selon Matthieu 6, 9, Jésus nous invite à prier en disant notre Père, alors que dans l'enseignement du notre Père, si je peux dire, Luc dit simplement Père, il faut dire simplement Père. Matthieu insiste pour que nous disions notre Père. Passons aux occurrences où Jésus marque non plus notre relation au Père, sur la page 4, mais sa relation à lui au Père. Il nous l'évoque le plus souvent en disant mon Père. Résumons ces premières observations. Comparé à Marc et Luc, l'évangile de Matthieu nous fait bien davantage entendre Jésus nous parlant du Père pour évoquer aussi bien notre relation au Père céleste que sa relation singulière à ce même Père. Il y a quand même une relation de filiation un peu différente de la nôtre. Vous vous souvenez du passage de saint Jean à dire « Je ne suis pas encore retourné vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Je fais comprendre qu'il est Père, mais que pour lui, il est d'une manière plus directe. Ce n'est pas une filiation adoptive. Ceci dit, l'insistance sur le Père Céleste à Matthieu confirmait un peu dans le détail. Je ne vais pas m'attarder à tous les détails, mais des 45 occurrences, une petite vingtaine apparaissent dans des passages de Matthieu qui lui sont propres, et notamment dans ses discours. On a parcouru les 5 discours, et bien dans chacun des 5 discours, il y avait un moment où inévitablement Jésus parlait du Père. Dans le discours sur la montagne, notamment au chapitre 6, bien sûr, l'enseignement de notre Père, mais aussi la question de l'aumône, la prière, le jeûne, fais-le pour, non pas pour les hommes, mais pour le Père, ton Père, qui voit dans le secret. Dans le discours en parabole, dans l'épisode important de la confession de Pierre à Césarée, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, la confession de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans le discours communautaire du chapitre 18, à 4 reprises, et dans le discours eschatologique, le dernier discours qu'on a parcouru la fois passée, avec la scène du jugement dernier, venez les bénis de mon Père. Ils ne sont pas simplement face au roi berger, ils parlent de notre introduction par lui au Père. À côté de ces occurrences, dans des passages propres à Matthieu, on en trouve d'autres dans des passages qui ont un équivalent chez Marc ou chez Luc, mais où Jésus à Matthieu parle plus spécifiquement du Père. Je donne 3 exemples pour me faire comprendre. Matthieu 10, 20. L'Esprit de votre Père parlera en vous. Marc dit, l'Esprit Saint. Luc dit, moi-même, je vous donnerai un langage et une sagesse, etc. Un deuxième exemple. Quiconque donc me confessera devant les hommes, vous le confesserez moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me reniera, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Luc dit 2 fois devant les anges de Dieu. Troisième exemple. Parfois, les autres synoptiques engagent comme Matthieu une référence à Dieu, mais en disant Dieu ou le Très-Haut, là où le premier évangile le désigne proprement comme Père. Trois exemples. J'en cite 2, Matthieu 5, 45, à propos de l'amour des ennemis, ainsi vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Luc dit, vous serez fils du Très-Haut. Matthieu 12, 20, quiconque, je suis donc au début de la page 5, hein, quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, lui est pour moi mon frère, ma soeur, ma mère. J'ai Marc, quiconque a accompli la volonté de Dieu. J'ai Luc, ma mère, mes frères, ceux qui écoutent et accomplissent la parole de Dieu. Matthieu a cœur de préciser le caractère paternel de Dieu. Bref, et puis un troisième exemple, bref, assurément, le Jésus matthéen a vraiment à cœur de nous y désigner Dieu comme Père. Alors, la répartition des occurrences dans le texte, sa portée. Le tableau que j'ai commenté au départ, montrer comment Jésus nous désigne Dieu Père, tant par rapport à nous, 21 fois, je n'ai plus le tableau sous les yeux, là, qui est à la page 2, je vais commencer par cela, Dieu comme notre Père, et puis que par rapport à lui, 24 fois. Mais ces deux types de mentions n'alternent pas au fil du texte matthéen. Il ne parle pas une fois de Père par rapport à nous, puis une fois par rapport à lui, puis par rapport à nous, puis par rapport à lui. Non. Hein? Elle s'y succède plutôt, je m'explique. Si on regarde la répartition, les mentions de Dieu comme notre Père se rencontrent massivement entre Matthieu 5, 16 et Matthieu 7, 11. Autrement dit, dans le discours sur la montagne. Ensuite, on n'a plus, on a encore quelques occurrences, mais moins nombreuses. Inversement, Jésus n'évoque le Père par rapport à lui, il ne dit mon Père qu'à partir de l'occurrence de 7.21. Cette dernière semble donc jouer comme une charnière pour le passage d'un point de vue à l'autre. Elle intervient vers la fin du discours sur la montagne. Non pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur, entrera dans le royaume des cieux », mais celui qui fait la volonté de « Mon Père qui est dans les cieux ». Et à partir de cette occurrence, Matthieu, dans la suite de l'évangile, nous fait entendre Jésus nous parlant du Père, pratiquement toujours en tant que son Père à lui, ou bien s'adressant à son Père. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus, après le discours sur la montagne, nous parle du Père comme si nous n'étions plus concernés par cette paternité? Puisque après ça, il parle du Père comme son Père, il n'est plus votre Père, etc. Au contraire, le point à relever est plutôt le suivant. Si pour continuer à éclairer notre rapport au Père, Jésus, à partir de 7:21, ne le désigne en disant désormais « mon Père » ou « le Père », c'est pour mieux manifester la relation entre le Père, le Fils et nous. Si après 7:21, il nous parle de son Père en disant, en parlant de sa relation au Père, c'est pour nous faire comprendre comment il nous concerne aussi. On va le comprendre à partir de 3 exemples. Sur la page. L'expression de 7:21, il a donné à tout le monde sur elle. C'est bien, c'est généreux. L'expression de 7:21, quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là, moi, à frère, une sœur, etc., dit, nous sommes invités à faire la volonté du Père. Donc ça parle bien de notre relation au Père. Mais la formule, celui qui fait la volonté de mon Père, ne signifie implicitement deux choses. C'est parce que ce Père est singulièrement son Père à lui que Jésus, à travers tout le discours sur la montagne, a pu parler en position d'autorité divine. Or, moi, je vous dis. Il a pu nous dire notre Père parce que, et il nous fait comprendre la fin, parce qu'il est le Fils en un sens unique de ce Père-là. En cela, pour nous révéler en fait cette volonté de son Père, que lui seul connaît profondément comme fils. Les paroles de Jésus, celui qui fait ces paroles-ci, les miennes, nous manifestent cette volonté avant et après l'enseignement du Pater, où le Fils seul peut nous donner les mots pour nous adresser à ce Père. Deuxièmement, en disant la volonté de mon Père, Jésus laisse entendre qu'il la reçoit comme valant d'abord pour lui le tout premier. C'est lui le premier qui fait la volonté de son Père. Et nous, à sa suite, sommes invités à faire la volonté de celui qui est nommé comme mon Père. Le récit de la Passion nous confirme dans sa prière à Gethsémani. Père, non pas que ta volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, c'est mes paroles du Pater. Deuxième exemple, en 12:50, Jésus reprend la formule « Celui qui fera la volonté de mon Père » pour déclarer « Celui-là est mon frère ». Et donc, il reprend ce qu'il a dit en 7:21 de nouveau. Il insiste sur cela. Troisième exemple, en 16:17, dans la déclaration de béatitude adressée à Pierre, Jésus dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » Joie-t-il-a-t-il-est-t. Plutôt que ton Père. On aurait pu dire ton Père céleste, Pierre. Révèle ça. Nous, il dit pourquoi. Pierre vient de confesser Jésus comme fils du Dieu vivant. Et réciproquement, dans sa réaction, ce fils acquiesce à cette reconnaissance de filiation unique en disant mon Père, pour en désigner le révélateur. La pointe est que si Jésus nous parle de son Père, c'est pas simplement pour nous révéler sa relation unique à son Père, mais pour nous faire entrer aussi, à notre manière, dans cette filiation. Dès lors, un quatrième point, frère du Christ et en Christ, en tant que fils du Père. Rapporté au Père en passant par le Fils, nous le sommes donc comme frères. C'est souligné dans le discours communautaire, au chapitre 18. Si mon frère vient à pécher, etc. Bon. Et dans la mise en scène du jugement dernier. le plus petit de mes frères, tel que vous voudrez. Je commente quelques versets, tous propres à Matthieu, qui nous importe ici. En 18, Jésus dit, « Veillez à ne mépriser aucun de ces petits-ci, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux regardent la face de mon Père qui est dans les cieux. » Puis à la fin, « Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux que se perde dans celle de ses petits. » Or, l'expression « un seul de ses petits-ci » est envisagée dans le rapport au Christ, un seul de ses petits-ci qui croit en moi. Ces petits nous sont donc bien présentés, quant au fond, comme des frères, à la fois au Christ, et qui sont à respecter spécialement sous le regard du Père. Je saute le paragraphe suivant, je prends à la page 7. Exemple de 25, 34, 40. Je vous ai donné les feuilles pour que, si vous désirez, vous puissiez les regarder. Hein. Enfin, la déclaration « Allons les bénis de mon Père » est directement liée à notre rapport au Christ, honoré dans le frère, comme étant son frère. Dans la mesure où vous l'avez fait à un seul des moindres de ces miens frères-ci, à moi, vous l'avez fait. Le Fils unique du Père entretient une relation fraternelle avec chaque homme. Et nous, en nous faisant entrer dans sa filiation, il nous invite à être, nous aussi, toujours plus fraternels avec chacun. Faisons le point. L'examen des occurrences dans leur contexte et leur répartition confirme que Jésus, selon Matthieu, non seulement est animé d'un grand désir de nous parler du Père, mais encore qu'il le fait en nous désignant d'abord par rapport à nous, qu'il entend donc nous révéler la volonté de ce Père, et ensuite, soit par rapport à lui, comme tel, soit pour manifester que notre rapport au Père passe par son rapport filial singulier au Père. Et alors qu'en découlent les conséquences directes pour nos relations fraternelles avec lui Jésus et entre nous sous le regard du Père. Cinquième point, le Père qui est dans les cieux et le royaume des cieux. Le premier évangile insiste par ailleurs sur le ciel, les cieux, le céleste. Regardez, j'ai fait un petit tableau chiffré, vous voyez de nouveau, c'est quand même frappant. Le ciel, 80 fois chez Matthieu, hein, et l'adjectif, la qualification céleste, 8 fois. Dans une belle reprise, le père Albert Vermulken, qui a été intervenu dans un séminaire sur Matthieu, notait que l'expression chez Matthieu, le royaume des cieux est prédominante par rapport au royaume de Dieu, à l'inverse de ce qu'on trouve chez lui. Il rappelait que l'emploi de cieux à la place de Dieu est tout simplement une respectueuse périphrase juive destinée à éviter de nommer constamment la divinité. Hein, dire royaume des cieux pour éviter de dire trop souvent royaume de Dieu. Parce que le juif hésite à mentionner le nom de Dieu. Et comme Jésus parlait en araméen, il ne sait pas comment il nommait. Dieu, sans doute, comme le faisaient les Juifs, en évitant de prononcer les quatre lettres divines, tétragramme, en disant le nommant oralement, autrement, Adonai. Les mots des cieux ne signifient pas que ce royaume est céleste, mais que celui qui est aux cieux règne sur le monde. Ensuite, cette manière de pointer la personne de celui qui est aux cieux rejoint le constat suivant. En parlant du Père, Matthieu, comme pour mieux le différencier des Pères terrestres, le qualifie une vingtaine de fois, c'est quand même beaucoup, soit de céleste, soit de dans les cieux. Du reste, il y a une consigne très claire en 23.9 et qui est propre à Matthieu, « N'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est votre Père, le céleste. » C'est le Père céleste. Son Père qui mérite pleinement l'appellation de Père. Seul mérite pleinement le nom de Père, celui auquel nous disons, selon la version athéenne, notre Père qui est dans les cieux. Donc les deux choses sont liées. À la différence de nos Pères de la terre. Que ton nom soit sanctifié. la connivence entre les insistances respectives sur le royaume des cieux et le Père des cieux apparaît dans plusieurs affirmations de Jésus. On dit d'eux, notre Père qui est dans les cieux, que vienne ton royaume. Votre Père céleste, c'est que vous avez besoin de tout ceci, cherchez d'abord son royaume et sa justice, c'est Dieu, et tout ceci vous sera ajouté. Je saute les deux autres exemples. Du reste, en dehors de cette commune signification, qualification de céleste, liant le royaume des cieux et le Père des cieux, le royaume est autrement encore et plusieurs fois à l'enseigne du Père, et cela dans une perspective future et finale. Le royaume qu'apporte Christ, eh bien, va nous amener dans le royaume du Père. Tantôt de manière directe, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, ou bien je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le boive neuf avec vous dans le royaume de mon Père. Tantôt de manière indirecte, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, et puis jusqu'à ce qu'il voit le Fils de l'homme venant dans son royaume, le parallélisme fait comprendre que son royaume a vraiment quelque chose à voir avec la gloire de son Père. Je prends simplement la phrase de conclusion de ce point 5. Ainsi, selon Matthieu, le royaume qui en Jésus est approché, puis nous a atteint, est bien celui où nous sommes appelés à nous épanouir ultimement sous le regard du Père. Donc je relis aussi des thèmes récurrents. Matthieu parle beaucoup du royaume, il parle beaucoup du Père, il parle beaucoup de la réalité céleste, ces choses sont liées dans sa théologie. Sixièmement, Jésus confesse le Père, Seigneur du ciel et de la terre. Le chapitre 13, discours en parabole, offre à sa charnière centrale une citation d'accomplissement. Celle-ci, dans son application à Jésus, lui fait dire « Je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde ». Avec le participe « caché », Matthieu se démarque là du texte grec du passage de l'Ancien Testament qu'il cite, et aussi du texte hébreu. Or, dès le chapitre 10, Jésus avait utilisé ce verbe « crypto caché » pour dire, dans le sens positif d'une révélation à partager dans la lumière. Rien n'est voilé qui ne sera révélé et caché qui ne sera connu. Ensuite, au chapitre 11, Jésus confessait le Père en spécifiant, je te confesse et j'exulte parce que tu as caché ceci au sage, au compréhensif, et tu l'as révélé au tout petit. Ce passage du caché au révélé est de tonalité des cris de sagesse ou d'apocalyptique. Jésus le souligne encore plus tard, nul ne connaît le Père, etc. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils à qui le Fils décidera de le révéler. Ainsi donc, ce que Jésus nous révèle, alors que c'était caché depuis la fondation du monde, est-ce que ce n'est pas avant tout la connaissance qu'il a de son Père? Quand il dit, je révèle des choses cachées depuis la fondation du monde, est-ce que ce n'est pas la révélation de sa relation tout à fait unique et la connaissance qu'il a de son Père et que seul lui pouvait nous apporter. Souvenez-vous, je suis parti d'un constat de départ, c'est que l'Ancien Testament parle peu de Dieu comme Père. Donc il fallait la venue de Jésus pour opérer ce passage de cette vérité qui est encore cachée à sa révélation. Et inséparablement, il nous signifie que le Père nous révèle son identité filiale à lui Jésus. Le Père révèle le Fils révèle le Père, ça se confirme dans le dernier passage où l'évangéliste utilise ce verbe révélé en 16-17 à Pierre qui le confesse comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus déclare, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas chair et sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Enfin, de nouveau que contenu essentiel de la révélation, mais c'est le Père à travers la révélation de la filiation de Jésus. Dans ces deux passages révélatoires, des chapitres 11 et 16, Jésus lie chaque fois, notons-le, le ciel et la terre avec la mention du Père. Je te confesse, Seigneur, du ciel et de la terre. et dans ta terre, qu'arrive ta volonté, comme au ciel, ainsi sur la terre. Ainsi donc, si Jésus nous parle abondamment du Père en le qualifiant de céleste, il le mentionne aussi comme Seigneur du ciel et de la terre. Pardon. Dans le passage proprement matthéen sur le serment, l'injonction « Je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre parce qu'elle est le piédestal de ses pieds. » Ou encore dans la dernière injonction « N'appelez personne votre Père sur la terre car vous n'avez qu'un seul Père, le céleste. » Jésus, comme Fils incarné du Père, unit dans sa personne la terre et le ciel. Il y a bien sûr son Père qui est le céleste, c'est lui qui s'est incarné et est venu sur la terre, et il a rencontré des pères terrestres, mais il nous fait comprendre précisément qu'il fait le lien entre les deux. Unir sa personne, la, ciel, la terre et le ciel. Sur le point de quitter les siens, il leur rappelle « Toute autorité me fut donnée au ciel et sur la terre. » Cette autorité lui vient du Père, assurément, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Jésus nous révèle son Père, une vérité qui était cachée, et nous fait comprendre aussi à quel point il est son règne, à travers la venue de Jésus, commence à s'instaurer sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre comme il est déjà versé au ciel. Septième point. Notre Père, qu'arrive ta volonté. Je vais terminer par là. Je pars de la version matthéenne du Notre Père. Par rapport à celle de Luc, elle a une place singulière au cœur du sermon sur la montagne. C'est là que Jésus enseigne la prière de Notre Père, dans ce discours où son autorité est frappante. C'est le plus long des discours chez Matthieu, avec le dernier, le discours eschatologique. Hein, aux deux extrêmes, on a les deux plus longs discours dans l'évangile de Matthieu. Il est très déployé, le sermon sur la montagne, comparé à Luc. Chez Luc, chez qui n'intervient pas l'enseignement du pater, Luc le rapporte ailleurs. Or, c'est avec ce discours, on l'a dit, que les premières mentions du Père apparaissent en main de Dieu, que le Père apparaisse en main de Dieu. Les quatre premiers chapitres de l'Évangile prenaient la question par l'autre bout, si on peut dire, en mettant en évidence le caractère filial de Jésus et du peuple dont il réassume le parcours. Celui-ci est mon fils, etc. Mais le discours des chapitres 5 à 7 présente, lui, 17 mentions du Père en la vue. Et celle du milieu, la 9e, est celle de la prière du Notre Père. Et la dernière, qu'on a déjà notée, est celle où Jésus, après avoir dit abondamment « Votre Père, ton Père », dit pour la première fois « Mon Père ». Outre sa place, l'enseignement du Pater se différencie encore de la version de Luc par deux traits. L'appellation « Notre Père qui est aux cieux », là où Luc dit simplement « Père », et la demande, qu'on ne trouve pas chez Luc, « Qu'arrive ta volonté, comme au ciel, aussi sur la terre ?» Et c'est, je vous le rappelais, précisément les termes de Jésus au moment d'agonie. « Mon Père, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Qu'arrive ta volonté. Puis dans un deuxième temps, ce sera exactement le même thème du baptême, « Mon Père, si cela ne peut passer, si je ne vois pas, qu'arrive ta volonté ?» Là où Marc se contente de dire de nouveau, il pria en disant les mêmes paroles. Jésus, Matthieu insiste. La parole qu'il nous a enseignée dans le Notre Père, qu'arrive ta volonté, il le dit à ce moment-là lui-même, à son agonie. Entre ces deux premiers temps d'invocation de son agonie, Jésus désire associer ses disciples à cette prière, s'offrant à faire la volonté du Père, veiller, prier, afin de ne pas entrer en tentation. Je passe à la page 11, parce que le temps tourne. Cette volonté du Père sur laquelle Jésus insiste, comment l'Évangile en spécifie-t-il le contenu? Donc Jésus dit à son Père que ta volonté se fasse et il nous invite à demander au Père que sa volonté se fasse, à faire la volonté du Père. Mais alors, quel est le contenu de cette volonté? D'abord, la miséricorde ou la pitié. Vous avez dit, j'aurais pu prendre ce thème-là. La reprise à deux passages, à Matthieu, du passage du prophète Osée. Je veux la pitié et non le sacrifice. Avec son Père, Jésus veut et exerce la pitié. C'est une béatitude. La seule béatitude de tournure réciproque dit « Heureux ceux qui ont pitié, les miséricordieux, parce qu'eux, ils seront pris en pitié. » Elle était relayée par la parabole du pardon non partagé, qui est propre à Matthieu. Ne fallait-il pas que tu prennes pitié de ton conservateur, comme moi aussi j'ai pris pitié de toi? Quant aux points les plus lourds de la loi, c'est, chez Matthieu, le jugement, la pitié et la foi. Assurément, en son Fils, Dieu, Père, exerce et veut avant tout la pitié. Contenu de la volonté du Père, c'est que nous puissions entrer dans cette pitié. Ensuite, on a les paroles de l'homme riche. Deux expressions, propre à Matthieu, si tu veux entrer dans la vie, puis si tu veux être parfait. Ça rappelle, dans le discours sur la montagne, la phrase récapitulative, ou donc soyez parfait, comme votre Père céleste est parfait. Cet adjectif imparfait, teleos, nous invite à entrer dans la suite du Christ qui suppose le renoncement. Si tu veux être parfait, suis-moi. C'est dans la passion que culmine cette exigence béatifiante de faire la volonté du Père. La volonté du Père, autrement dit, c'est aussi que nous suivions Jésus. Ta volonté soit faite, et bien suivons Jésus, notamment dans sa manière de faire la volonté du Père. Et le verbe vouloir, on a noté, est mis en contraste, la volonté de Jésus. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, mais vous n'avez pas voulu. L'homme résiste à entrer dans cette volonté de Jésus. Enfin, en matière d'éclairage sur l'invitation de Jésus à faire la volonté du Père, nous voyons aussi ce que cette volonté n'est pas. À partir de la raillerie de 27-43, il s'est confié sur Dieu qui le défend maintenant, s'il le veut. Ce n'est justement pas ce que Dieu veut. Plus exactement, ce n'est pas cette manière de salut que Dieu veut et que Jésus non plus ne veut pas. Jésus qui a redit sa prière, qu'arrive ta volonté. Ce qu'il veut, c'est la volonté du Père et non pas d'être... sauver miraculeusement. Au moment de l'arrestation, il dit à Pierre, « Penses-tu que je ne peux pas supplier le Père ?» Il placera près de moi plus de 12 légions d'anges. Jésus le pourrait, mais refuse de le vouloir, parce que ce n'est pas la volonté du Père. Je résume, concernant le rapport au Père des cieux, Jésus nous invite bien à faire la volonté du Père, il nous précède sur ce chemin de perfection, et le premier évangile y insiste en soulignant notamment la pitié requise par Dieu, lui qui nous prend pitié en son Fils livré en rémission des péchés. Je résume le parcours quant à ses principaux acquis. Matthieu tire de son trésor du neuf et du vieux. Nous sommes donc brièvement partis de l'Ancien Testament, le vieux, pour mieux rebondir sur la nouveauté de l'accomplissement évangélique, et ça d'un point de vue particulier, quant à la révélation que Jésus nous apporte du Père. Deuxièmement, Matthieu, en multipliant l'usage du mot Père, nous montre, juste dans le détail des formulations comparées à Marc et Luc, et nous montre Jésus très attentif au Père céleste, à la fois pour lui-même et pour y ouvrir ses interlocuteurs, notamment au fil des grands discours. Tout spécialement, le discours sous la montagne, qui est pour une première fois autour de l'enseignement du Pater, ce que Jésus nous dit de notre rapport au Père céleste. Mais passant ensuite de la formule « Votre Père » à « Mon Père », le Père, Jésus n'en continue pas moins à nous introduire à notre relation à son Père, qui nous fait frères. mais en tant qu'elle passe par sa filiation à lui. Les insistants sur le royaume des cieux et le Père des cieux vont ensemble, vont de pair. Sans nous couper de la terre, le Fils de Dieu sur terre, Dieu avec nous, eh bien, peut seul nous révéler qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Enfin, si Jésus nous parle tant du Père céleste, c'est pour nous faire entrer à sa suite dans l'accomplissement de sa volonté, conformément à ce moment du Pater. Seule voie par laquelle nous vient le salut, la béatitude du royaume. Je termine. Alors les justes, de la justice nouvelle du royaume, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, dit Jésus en Matthieu 13. À l'image du Fils du Père en gloire, qui est le juste par excellence, il fut transfiguré devant eux et sa face brilla comme le soleil. Mais comme lui, si nous entrons dans la justice nouvelle, nous resplendirons comme le soleil dans le royaume de notre Père. Et c'est Matthieu qui note ça. La première mention de Dieu comme Père chez Matthieu disait « Ainsi que brille votre lumière devant les hommes, en vue qu'ils voient vos belles œuvres, et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Donc, être lumière du monde, je le dis, c'est commencer à faire resplendir cette clarté de laquelle nous resplendirons pleinement lorsque nous resplendirons comme le soleil dans le royaume de notre terre. Alors, merci de votre attention. C'est un peu dense, c'est pour ça que je vous laisse les feuilles, mais vous mesurez quand même qu'indéniablement, à première vue dans les évangiles, quand on demande qui nous parle le plus du Père, on a raison de dire que c'est l'évangile de Jean, mais que Matthieu a quand même bien présent cela, et d'une manière différente de Jean, mais dans son style à lui, tout aussi réel, nous fait comprendre à quel point le Fils du Père d'une manière unique, mais pas pour se réserver cette filiation, mais nous y faire entrer comme frère. Et en ce sens, Matthieu, qui s'est fort appuyé sur l'Ancien Testament, toutes les citations d'accomplissement, ici, n'hésite pas à insister sur la nouveauté par rapport à l'Ancien Testament. Il n'y a que Jésus, que la venue de Jésus, qui pouvait nous révéler à ce point le visage de Dieu comme Père. Déjà intuitionné un peu par un Isaïe, quoi, mais c'est la nouveauté de l'annonce de Jésus. Merci de votre attention.
Merci à vous. Voilà.